temps de changer de costume, puisque c'est en général sur d'autres circonstances où je peux mettre mon tutu. Et à Carnaval, ce sont des points sur lesquels je ne veux pas transiger. J'ai suffisamment, et tu me l'as dit déjà, donné dans la caricature pour éviter sur ce difficile débat dans lequel je soutiens totalement, là aussi, les efforts de Gilles, et nous n'avons probablement pas été suffisamment loin dans ce domaine, pour amener notre réflexion au niveau où Claude nous l'a montré et dans lequel je vois tous les espoirs, là encore, qui nous étaient posés hier après-midi. Donc c'est des points sur lesquels on va progressivement venir autour de la question du refus. Et la question du refus de cette caricature dans laquelle je vous demande de ne pas me suivre, vous viendrez progressivement autour de ce que sont finalement les problèmes de la limite. Et les problèmes de la limite, on les a posés en février dans la première conférence que Gilles m'avait permis de tenir dans son séminaire, autour de la question de la conscience de la mesure et finalement du résultat de la mesure. Et le problème principal peut-être est aussi celui de la malmesure de l'homme, de la malmesure de la femme, je ne sais pas s'il y en a une, mais en tout cas très clairement un point sur lequel ces connaissances qui petit à petit viennent nous donner de plus en plus de convictions que le monde s'organise sur des principes qui s'avèrent relativement simples. Est-ce que c'est la loi de Malthus? Est-ce que c'est la loi de Moore? Est-ce que c'en est une autre que nous connaissons bien par ailleurs? Mais en tout cas, nous redécouvrons ces principes sans cesse autour des questions d'énergie, de dissipation énergétique et de croissance de l'entropie. Ça a été le thème de ce matin. Autour de la question des cycles et des déséquilibres, autour des relations logarithmiques, exponentielles et en tout cas jamais linéaires dans ce domaine, et avec des questions qui font apparaître la complexité de par la multitude, de par le nombre d'acteurs en interaction. Et le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent de résoudre ce problème de complexité qui nous échappe à chaque fois, à chaque étape, puisqu'il y a toujours un degré de complexité supérieur, c'est finalement le refus. Et le refus, c'est une question de savoir si on le domine ou si on le crée, si on en est dépendant ou si on le gère. Et on sait depuis Platon et depuis Lionel Nakache hier, à nouveau, à quel point le travail d'interprétation de notre cerveau est essentiel et comment il nous produit ces illusions dont on se repaît chaque jour. Alors Jacques Delors, dans la première session, il y a 4 ans, de ce colloque, émettait ses doutes quant à notre capacité à embrasser du même regard le temps court et le temps long. On a parlé des échelles. Un petit exemple, l'antibiotique que vous prenez actuellement allongera votre durée de vie parce qu'il combattra une bactérie qui devient du coup banale, mais dans le même temps, il diminuera la durée de vie de vos descendants parce qu'il sélectionne naturellement un mécanisme de résistance chez cette bactérie qui redeviendra mortelle. C'est un problème majeur sur lequel on ne va cesser finalement de trouver ce déséquilibre, ce fondement entre les bénéfices et les effets secondaires. Et donc la question que nous avions posée à ce moment-là, est-ce que nous avons les outils pour le temps long, a été abordée entre autres par Gérard Dubreuil ici présent pour l'organisation de ce colloque au Muséum il y a 2 ans, autour des grands thèmes sur la gouvernance de très long terme, à horizon justement de ce dont nous parlons aujourd'hui, milieu du 21e siècle, 22e siècle. Et sur ces questions, associant à la fois le stockage du CO2, la biodiversité, le climat et les déchets nucléaires, on voit qu'il existe un certain nombre de biais par lesquels nous passons. Le premier, c'est qu'on surestime toujours les impacts de premier terme, les impacts de court terme des nouvelles technologies, et on sous-estime, de fait, les effets de long terme. Alors ce biais d'asynchronisme, il vient simplement du fait que, progressivement, on voit apparaître toujours en premier ces effets secondaires pour lesquels notre développement technologique s'apprête à amener ces nouvelles façons de travailler, alors qu'il faut parfois un temps beaucoup plus long pour faire augmenter et croître, parfois de façon exponentielle, ces effets secondaires. Et c'est bien ce que Boris Cyrulnik nous a rappelé hier, c'est qu'à un moment donné, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel survient cette première information, et si la première qui survient est le bénéfice, alors forcément, vous allez avoir un tentative de renforcement et de quête autour de ces bénéfices qui va être extrêmement importante. Cette courbe, c'est exactement celle que Philippe nous a montrée hier. Vous avez une courbe croissante des prises, mais vous avez dans le même temps un effort qui devient de plus en plus important pour aller chercher ces poissons au fond des océans, et finalement un rendement qui, de fait, s'écroule. Alors ces limites sont mesurées. Et elles sont mesurées autour de ces fonctions dans lesquelles on va revisiter à ce que Hervé vient de nous présenter juste avant, et en particulier sur les dernières années qu'il a bien voulu ne pas commenter. Celles sur lesquelles, en 2007, survient 2008-2009, et vous voyez qu'à partir de là, cette réduction qu'il a bien annoncée montre qu'il existe une diminution de plus en plus importante de ce taux de progression. Et si vous regardez bien les trois dernières années, on a une stagnation. Alors, on peut se dire que sur ces années-là, on en a eu d'autres. Oui, effectivement, mais c'est une stagnation qui vient alors que la phase de progression montre bien une réduction de ce progrès. Et on a vu donc ce nombre divisé d'un facteur 5 en 50 ans et de 2,5 chez l'homme. De la même façon, sur la mortalité infantile, on voit bien là encore, et cette fois-ci depuis 7 ans, qu'on n'arrive plus quasiment à augmenter l'effort que l'on peut faire dans ce domaine, et donc à réduire en dessous de 3 pour 1000 cette mortalité qui a considérablement baissé, là encore, sur l'ensemble du 19e, 20e siècle, et en particulier de façon là encore exponentielle sur les 6 dernières décennies. Et ça aboutit à ce que Canisteau a amené comme concept de la compression de mortalité, qui est que l'espérance de vie va progresser jusqu'à ce que potentiellement on atteigne les limites, qui sont une combinaison de notre génétique et de l'environnement, favorable ou non. Et cet aspect-là est bien montré par Canisteau en montrant ce renforcement de la pente entre le 19e siècle, avec un fort taux de mortalité infantile initialement, puis une mortalité qui réaugmente au cours de la vie, pour culminer aux alentours de 60 ans, alors qu'en 2014, on voit qu'autour de 80 ans, qui est la médiane française, qui est donc l'espérance de vie moyenne entre hommes et femmes, on voit cette pente augmenter de façon considérable. Et ceci a été confirmé par les travaux qu'on peut mener sur les sportifs de haut niveau, qui vont dépasser, vous l'avez vu, d'à peu près 6 ans, l'espérance de vie moyenne des Français, mais qui dans le même temps montrent cet enraidissement de la pente, qui viennent eux aussi se prendre les pieds dans le tapis, qui viennent rencontrer la limite qui est potentiellement une limite intrinsèque. Cette évolution séculaire, Adrien Sedeau et Hermès l'a montré aussi, sur l'ensemble des progrès de la taille, simplement des plus grands recrutés dans le baseball, le football américain et pour les plus hauts d'entre eux, chez les basketteurs américains, et vous voyez que depuis 30 ans, ça ne progresse plus du tout, alors que le vivier mondial a été totalement exploité. Le saut à la perche, pour le dernier d'entre eux, vous avez ici les 10 meilleurs chaque année, en bleu chez les hommes, en rouge chez les femmes, et vous voyez que ce taux de progression qui a été extrêmement important, qui a vu un gain de 60% sur l'ensemble de l'ère olympique, est accompagné de ce dernier record du monde, extraordinairement heureux pour Renaud Lavillenie, mais que dans le même temps, les 9 autres qui le suivent depuis Bubka, qui ont renouvelé, qui ne sont pas les mêmes, mais ces 9-là, dans les 10 premiers, n'ont cessé de régresser depuis, et donc la perche est en fait une discipline en régression, contrairement à la progression du seul qui arrive à repousser le record, Renaud Lavillenie. Alors on débarque au-delà de ces questions de santé publique, de biométrie, de sport, autour des questions économiques que Daniel a abordées juste à présent. Et on se pose la même question autour de ce que sont finalement les rythmes pour qu'un PIB revienne à son état pré-crise. Un an et demi entre 1974 et 1975, 2 ans et demi après 1993 et 6 ans depuis 2008, même à savoir si on est en train de retrouver un PIB de croissance. J'ai bien entendu tout à l'heure dans la bouche de Gérard Mestrallet le mot de décroissance, tout comme vous. Ça aurait été probablement très peu probable il y a 8 ans. Pourquoi ? Parce que ce taux de richesse, ce taux de croissance finalement, est potentiellement celui que l'on voit sur l'ensemble des autres indicateurs et que la dérivée de celui-là, finalement, va avoir son maximum au milieu du XXe siècle et voit progressivement diminuer de façon importante et progressivement arriver sur une valeur qui peut être nulle. Est-ce qu'elle est nulle ? Oui, si on regarde de façon très cohérente ce taux de croissance du PIB moyenné tous les 5 ans, en bleu, et la consommation de soins et de biens médicaux, qui de notre côté, en termes de santé publique, montre l'investissement d'un pays dans ses conditions sanitaires, eh bien on voit que les deux sont constamment en décroissance, et que pour 2014, ce premier trimestre, il y a quelques jours, nous rappelle que cette valeur est restée stagnante, nulle, pour les 3 premiers mois de l'année. Alors du coup, en 2010, Stiglitz nous donnait cette injonction finalement à la nécessité de changer nos croyances. Théorie économique, désormais fausse représentation, ramène la question de l'interprétation et en même temps celui sur lequel on voit bien, et là encore j'ai extrêmement apprécié la présentation de Daniel Cohen juste avant, que justement cet impact est en train de bouleverser et que l'ensemble finalement des camps, stagnationnistes ou non, va amener une réflexion de plus en plus importante intégrant ces différents domaines. Mais les économistes ne sont pas les seuls, nous aussi avons nos croyances scientifiques, nous aussi cherchons à interpréter l'ensemble de nos données, parfois trop, et à revenir de temps en temps sur des fondements que nous finissons par partager et qui donnent les bases de la réflexion suivante. Et puis on peut multiplier les exemples à l'infini. Un grand nombre d'entre nous, progressivement, doit probablement changer ses croyances. Alors le problème, c'est qu'on arrive finalement à une remise en question quasi permanente de nos systèmes interprétatifs, de nos systèmes de fiction, comme les appelle Lionel, et de nos systèmes de croyances. Et ça, on n'apprécie pas beaucoup. D'autant plus lorsqu'il existe et qu'on se trouve confronté à ce plafond des lois qui, si elles existent, pour certaines d'entre elles, on les voit bien, nous contraignent totalement et dans lequel on va seulement chercher à ignorer ce point-là. Alors comment on fait dans cette question-là ? Ben, le principal, c'est de se dire on va aller dans une direction donnée, on essaye dans un colloque, dans une réflexion importante où on amène l'ensemble des spécialistes à choisir les potentialités d'aller dans une direction. Il n'est pas forcé que cette direction soit suivie. Et c'est bien le constat que Gilles fait après 20 ans de réunion internationale en conférence sur l'ensemble de ces points. Et c'est ça que l'on va faire. C'est le bilan complet. Pour nous, dans une espèce donnée qui évolue, qui avance, qui se fait ses propres choix, comment l'ensemble finalement aboutit dans ce point-là. Et il est clair qu'il existe par rapport à ça une façon d'analyser les choses qui peuvent être extrêmement importantes sur l'ensemble de l'évolution de notre espèce et qui par ce biais maintenant pourrait poser un petit problème. Et ce petit problème, il réside dans une zone cérébrale dont nous a parlé Lionel hier, qui est le gyrus préfrontal. Et dans ce gyrus préfrontal inférieur, vous avez des zones dans lesquelles vous allez associer les idées négatives des résultats de l'expérience et d'autres dans lesquelles vous allez refuser cet aspect. Et c'est très bien inscrit, vous le voyez ici, sur les différences entre les personnes optimistes et les personnes qui le sont moins, sur lesquelles vous allez avoir une réaction très différente de ce gyrus qui va potentiellement être associé, attention, les niveaux de causalité, les niveaux de corrélation, être associés en tout cas au traitement de cette information, et on en sait bien le rôle en tout cas sur les fonctions cérébrales. Et nos modes de délégation au sein de nos groupes collectifs, dont on parle avec Evelyne très régulièrement, nos modes de sélection de nos représentants conduisent aussi à une surreprésentation de ces optimistes que Taryn Charrot, dans son article, a qualifié de non-réalistes. Je n'en veux pour preuve que la façon dont finalement notre Premier ministre, samedi dernier, nous a dit qu'il ne fallait pas avoir le blues. On comprend bien que dans ce domaine, nous sommes progressivement, peut-être, alors que la confiance, l'espérance dont parlait Gilles à l'introduction de ce colloque est essentielle, elle a eu une valeur adaptative, peut-être sommes-nous en train de devenir trop confiants, y compris dans nos technologies les plus folles, conduisant au transhumanisme et toutes sortes d'autres utopies bien peu probables. Et ceci, justement, dans l'évaluation des prévisions budgétaires, est extrêmement intéressant. Si on regarde la croissance française depuis 15 ans, ici planifié en bleu et réel en rouge, avec la borne haute et basse en bleu, eh bien vous avez systématiquement la traduction de cet optimisme qui donne 0,6% de points de PIB, systématiquement, sauf en 2008. En 2009, vous avez cette année-là une appréciation à peu près correcte de la décroissance. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir aussi, par rapport à nos planifications, par nos prévisions, à tenir compte de cet aspect d'optimisme présent chez nous. Deuxième volet, celui de l'énergie. Gérard ne nous a pas présenté ce résultat, qui est celui de l'AIE d'un an et demi, mais qu'on partage avec l'ensemble, puisque ce sont des données officielles. L'Agence internationale de l'énergie nous montre que les champs productifs connus actuellement sont en déclin. On a bien eu le terme de décroissance. Le terme de production à venir doit être transformé, doit apporter d'autres modes d'énergie si nous voulons continuer à ce rythme. Et l'énergie, elle est bien au cœur de la croissance économique, mais pas seulement. Elle est aussi au cœur de la croissance biologique. Petit exemple sur Cuba. Cuba va vivre une période extrêmement difficile dans les années 90. Entre 91 et 95, il n'y a plus aucun un échange commercial avec l'URSS défunte, et donc Cuba doit se réorganiser pour s'auto-organiser, pour se prendre en charge, et donc venir dans ce domaine. Et on fait la mesure, finalement, de l'impact de cette crise économique majeure qu'a connue Cuba sur la moyenne du poids de la population cubaine. Cet indice, qui est l'IMC, indice de masse corporelle, le poids divisé par la taille au carré, globalement, vous donne un indice de votre corpulence. Et lorsqu'on est avant la crise en 91, on voit ceci centré sur les valeurs normales, entre 20 et 25, qui sont les recommandations du plan national nutrition santé, par exemple. 95, fin de crise, tout le monde a pris 3 points dans la vue. Tout le monde a maigri en moyenne de 6 kilos. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que dans la crise, qui va être gérée en 2001, et puis progressivement, voire en 2010, une réaugmentation de cet indice, et donc du poids, finalement, vous avez eu deux fonctions, une augmentation de la dépense, et vous êtes bien passé par le vélo, et en même temps, une diminution des apports. Cet écart-là, entre les deux, vous signe naturellement l'impact que vous allez avoir en population mesurable sur le taux d'IMC. Et donc le taux d'obésité s'effondre pendant la crise. Et le taux de diabète réaugmente au même titre que le taux d'obésité après le passage de la crise. On est sur des conditions dans lesquelles les paramètres biométriques, les paramètres d'espérance de vie qu'on a vu tout à l'heure, l'ensemble de ces fonctions anthropométriques sont soumises aux variations importantes de l'environnement. Environnement socio-économique, mais de façon plus générale encore, l'environnement au sens large. Et ces relations sont donc des relations qui vont, entre la démographie, la biométrie, l'économie, créer des liens, qui sont ces liens complexes dont vous parliez et que vous appeliez hier de vos voeux, et qu'on va avoir, c'est un de ces outils que je vous présentais au mois de février. En termes d'énergie, la question de l'augmentation, finalement, de la consommation per capita, on en a eu un certain nombre d'échos ce matin, montre qu'il y a eu une stagnation du charbon depuis la fin du 19e siècle. On a eu cette augmentation très importante du pétrole et du gaz, et on voit apparaître les renouvelables depuis une quinzaine d'années, et dont on espère qu'ils puissent jouer sur la transition énergétique. Mais vous voyez l'impact extrêmement important, et surtout la réaugmentation toute récente dans les 10 dernières années, globalement, par le marché chinois, notamment, et l'économie chinoise du charbon, qui va poser un problème important. Deuxième problème évoqué par Valérie Masson-Delmotière, celui de l'efficacité des gains énergétiques, sur l'efficience énergétique, qui ont, justement, par le biais de la croissance démographique, été complètement effacés. Donc cette consommation à la suite, elle pose la question d'un des impacts principaux sur lesquels la boucle de rétroaction va se jouer, celle de l'augmentation du CO2. Alors, si on mesure ce CO2, il est parallèle pour l'ensemble de la consommation mondiale, mais il est essentiellement porté, puisque l'Europe et les États-Unis diminuent depuis 8 ans, essentiellement porté par les émergents dont on a parlé ce matin. Et cet écart-là, sur le plan historique, va laisser des traces extrêmement importantes aussi, puisque les seuls moyens qu'on a eu de diminuer ce forçage, par la diminution de l'émission de CO2, correspondent à deux événements douloureux, 1974 et 1993, et deux événements dramatiques, la Première et la Seconde Guerre mondiale, sur l'ensemble régime. Et là, sur cette évolution séculaire d'un paramètre tel que celui-là, on n'est pas très encouragé à développer des politiques de restriction volontaires, très clairement. Ces seuls moments de réduction dans ces grands reculs humains, on en voit les conséquences, d'ailleurs, sur le plan environnemental. Maintenant, l'élévation du niveau des mers, on l'a vu sur l'exposé de Valérie hier, et ce qu'elle a qualifié de solastalgie, cette nostalgie d'un climat perdu, finalement, les Sénans, habitants de l'île de Sein, l'ont vécu là à nouveau, après 2008 et 2010, de façon très douloureuse cet hiver, avec une énorme inquiétude sur la façon dont la vitesse finalement, de progression de cette montée se fera au moment des événements extrêmes. Alors, à Dunkerque, qui a vécu déjà une brèche en 1953, le problème a été adressé cet hiver, entre janvier et mars. Vous avez eu 1 kilomètre de digues qui ont été renforcées, réensablées, 1 million de mètres cubes de sable déplacé à partir d'une drague au large. Et pour 7 millions d'euros, vous avez eu un réensablement de l'ensemble de cet ouvrage. Le problème, c'est qu'en France, il va falloir le faire aussi, et que 7 millions d'euros, planifiés avec la vitesse à laquelle les courants emportent le sable, c'est tous les 5 ans. Vous avez 9000 km de digues en France. Pas des ouvrages aussi sensibles, mais vous en avez quand même 3000 qui sont inscrits sur la défense de nos lignes par rapport à cet événement majeur qu'est la montée des océans. Et donc, cet asynchronisme entre la technologie avec les effets secondaires, qui ne viennent qu'après que l'on a repris tous les dividendes, pose actuellement la question principale, finalement, à nouveau, de cette augmentation des contraintes. Heureusement que Claude nous amène cet espoir d'être un jour capable de ne plus seulement surnager dans nos débris, mais de pouvoir retraiter cette partie-là, parce que derrière, vous avez quand même trois endroits dans le monde, Pripyat, la ville à côté de Tchernobyl, Daiichi, la ville à côté de Fukushima, et Carlsbad, depuis le mois de février, la ville à côté du WIPP, le centre de dépôt des déchets nucléaires américains, qui vient d'être fermé pour 18 mois, peut-être plus, sur lequel l'une des ruptures d'un des fûts vient poser toute la question, finalement, de l'entreposage profond d'un centre qui avait été un centre modèle, mais pour lequel le rapport du ministère de l'Énergie vous dit 15 ans après l'ouverture de ce site, hein, c'est pas récent, pas de respect des standards de sécurité, un excès de confiance, à nouveau, on revient, autour de mesures qui étaient supposées, pas de supervision indépendante, faible culture de sûreté. On sait à quel point, dans une technologie aussi complexe que celle-ci, il est nécessaire de faire attention. Et ce sont exactement les mêmes erreurs que le ministère japonais avait signées pour Fukushima. Donc on voit bien qu'on est en train de devenir trop confiant, et surtout, et probablement dans les situations les plus dangereuses. Alors si on combine 2, 3, 4 facteurs, comme on en parlait hier soir, la question qui vient derrière, c'est est-ce qu'on sait, par exemple, démanteler nos centrales en situation économique dégradée ? Ce sera un point important pour savoir si on pourra investir dans les renouvelables. Mais la question de la sécurité doit aussi être pensée, c'est ce que la Cour des comptes nous a dit il y a 2 ans, en disant qu'il faut, pour les centrales EDF, tenir compte impérativement, dans le prix de l'électricité, de l'ensemble de cet investissement. Brennilis, c'est 85. Démantèlement a été demandé immédiatement. Le démantèlement n'est toujours pas achevé. Et il est aux alentours de 20 fois l'estimation financière qui avait été faite initialement. Excès d'optimisme ? Peut-être. Alors, sur ces paradoxes climatiques, technologiques, on voit bien effectivement toute l'importance à développer des solutions bio-inspirées, des solutions renouvelables, des solutions qui permettent de voir. Et on voit bien que le sens de la transition énergétique sera essentiellement dans ce domaine-là, à quantité par ailleurs, et c'est là tout l'intérêt, et c'est là tout le problème, à quantité égale. Alors derrière les murs, que nous reste-t-il ? Dans cette idée d'une forteresse assiégée, hors les murs, on a d'autres combats qu'on n'est pas forcément en train de gagner, on en a parlé ce matin. Celui de la résistance de pathogènes courants, hein, le staph est 90% résistant à la méticilline au Nigeria. La réémergence de maladies qu'on pensait avoir fait reculer, la tuberculose, elle aussi multirésistante en Europe de l'Est. La polio, qui revient parce que les 3 foyers nigériens, là encore, Afghanistan et Pakistan, n'ont pas pu être éradiqués. Et la progression vers le nord, climatique cette fois-ci avec les vecteurs, dengue, chikungunya, filovirus, les vibrios et l'augmentation des bactéries, y compris en mer Baltique. Alors il faudra accepter la valeur adaptative, c'était ce que Bernard Chevasseur-Louis nous avait dit il y a 4 ans, la valeur adaptative de certains renoncements, et donc ne pas forcément passer par les voies de maximisation. Et en même temps, il faut tenir compte de la façon dont nous sommes faits. Et cette idée d'un câblage, de structures qui sont telles, on va essayer de l'illustrer par un tout petit exercice que Daniel connaît très bien. Je vais vous faire pour cela simplement progresser. Vous allez poser vos stylos et vos papiers. On va juste faire une petite manip très simple. Vous allez mettre vos deux mains en l'air et je vais vous demander de les frapper l'une dans l'autre quand je vous le demanderai. D'accord ? Je vais compter. 1, 2, 3. Je dirai clap. Et au moment où on fait ça, on frappe tous de façon à ce que le bruit soit plus fort que finalement le bruit de la rue Saint-Jacques qui nous sépare de la Sorbonne, notre ami héréditaire. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, clap. Voilà le problème. On est tous câblés de façon à répondre aux gestes et pas à la compréhension corticale que nous avons. Alors je vous propose, et je ne le fais jamais celle-là, de refaire l'expérience. Je vais faire 1, 2, 3, je dirai clap, mais avant de dire clap, je frapperai tout seul. Et après le clap, vous frapperez, comme on l'avait prévu. On essaye ? 1, 2, 3. Clap. Yes. Ça, c'est le principe indicatif. Ça veut dire qu'il faut être en alerte maximale. Et malgré ça, Et malgré ça, nous sommes encore à moitié partis sur deux champs, deux options différentes, sans conséquence. Pour autant, il va falloir garder pendant toutes les années qui viennent un très haut niveau d'alerte, justement pour pouvoir modifier nos comportements et aller dans le sens où nous le voulons par rapport aux limites que Daniel précise. Alors sur ce domaine-là, la question d'intelligence collective, effectivement, va être un des problèmes, et c'est plus autour des comportements collectifs dont vous venez de m'administrer la preuve. Nous avons nous-mêmes démontré que vous ne voulez pas me suivre dans cette voie, c'est exactement ce que je vous demandais en même temps. Ça tombe très bien. Et revenir sur la question sur laquelle il faudra, et c'est un des groupes de travail du Conseil de la Santé publique, d'aller sur ces questions qui vont mêler l'ensemble des données climatiques, économiques, biologiques, physiologiques, la biodiversité, les questions d'environnement et de gouvernance dans ce souci, sachant que pour préparer la conférence sur le climat, en particulier celle de l'année prochaine, ces questions de gouvernance deviennent de plus en plus aiguës par rapport à ce qu'a été l'échec de Copenhague. Et si on voit bien que l'universalisme, qui a été extrêmement important quand ça a été tenté depuis le haut, Evelyne, et que celui qui va être le risque principal, c'est qu'on n'arrive pas à partir du bas, comme le dit Peter Sloterdijk, qu'on a invité pour ce colloque qui malheureusement n'était pas libre, on espère que pour le prochain il pourra venir nous donner l'ensemble de sa vision de ces difficultés. Mais c'est bien autour du sens des situations communes qu'il faut se réunir et tenter de limiter ces aspects précontraints. Donc, Paolo Dall'Oglio, dont je salue ici le souvenir, et j'espère pas la mémoire, qui a disparu en Syrie il y a maintenant un an et demi, nous avait, au cours d'une très longue discussion, fait part de sa même interrogation sur les années à venir. Et en tout cas, il me semble que d'après cet effet, et si cet hiver qu'il annonçait s'annonce, on a quelques conséquences, des actes à prendre, celui de Bruegel pour la rentrée des troupeaux, et en même temps savoir que si nous avons peut-être atteint nos sommets, eh bien, il faut s'assurer de la redescente, s'assurer des corniches de stabilité, et il faut avoir des positions qui nous permettent de tenir tous, collectivement, alors que, et là encore le terme de Gérard Mestral est fort, la décroissance est présente, hein, et que sur ces aspects-là, il faut s'adapter, y compris à des conditions qui ne sont plus celles de nos conditions optimales. Et je crois que sur l'avenir de nos générations, c'est essentiellement autour de cela qu'il va falloir leur donner les armes pour pouvoir se battre. Voilà, je voudrais remercier Juliana Antero, Geoffroy Berthelot, Andy Marc, Julien Schipman, ici présent, Adrien Sedeau, Philippe Noiret, Rémi Thomasson et tant d'autres à l'IRMES qui ont permis de soutenir l'ensemble de ces données, et vous remercier de votre attention.